Paul Van Borax a commencé la photo en autodidacte. Ce hobby est vite devenu une passion. Il aime expérimenter, tester, oser des photos, ce qui lui permet aujourd'hui de continuer de façonner des lumières, des ambiances et des décors. Plutôt anarchique, il ne revendique pas la technique de la photo parfaite, mais développe son art dans l'improvisation. Il nous explique d'abord la naissance du projet et nous donne quelques indices sur la façon dont il a abordé et exploité la thématique des sauvages blanches.
Est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter un peu la genèse de ce projet ?
Alors voilà, c'est parti comme ça. Un jour, j'ai appelé une amie parce que j'avais envie de faire des photos. Et je l'ai appelée, je lui ai dit « Écoute, viens, j'ai de la gouache noire et de la gouache blanche, on va te transformer en sauvage, ça va faire quelque chose de beau. » C'est une amie qui est prête à faire toutes les bêtises du moment que ça peut être beau et toutes les bêtises photographiques. Donc elle m'a dit « D'accord, j'arrive, on verra. » Et elle est venue, on a donc peint en noir, en blanc, avec de la gouache. On l'a décorée à gauche, à droite, tout ça, et ça a fait en effet des très jolis portraits. Donc j'étais assez heureux du résultat. De temps en temps, ça ne marche pas, et là, ça avait vraiment bien marché. À partir de là, j'en ai fait une petite histoire. C'est l'histoire d'un explorateur qui remonte le long de l'Afrique, la côte ouest-est de l'Afrique, en face de Madagascar, et tombe sur un navire abandonné, échoué, qui s'appelle la Galante, et qui a disparu 2 siècles au plus tôt. Et donc, intrigué, l'explorateur descend et se rend compte que les colons qui étaient en partance pour Madagascar et qui étaient dans ce navire, ont recréé une société, enfin, sont retournés à l'état sauvage, plus exactement. Ils ont abandonné toute civilisation, on pourrait dire, et sont retournés à l'état sauvage. Et donc, cet explorateur, complètement abasourdi par la chose, décide de leur tirer le portrait pour revenir et montrer ça à l'Europe civilisée, bien évidemment. Donc, voilà l'histoire. Et à partir de ça, donc, moi, j'ai commencé la première, enfin, avec mon ami, on l'a maquillée. Derrière, je ne suis pas maquilleur, j'ai donc fait appel à une maquilleuse, une première en fait, qui m'a fait quelque chose de très propre, de très léché, qui n'était pas du tout bien, enfin pas dans l'esprit quoi. Et puis une deuxième qui, elle, au lieu de débarquer avec des produits de maquillage, a débarqué avec des sacs plastiques, avec plein de trucs dedans, avec des feuilles, des crânes, des feuilles, des pics, des trucs comme ça. Tout ce que, en fait, des sauvages pourraient trouver dans la nature pour se décorer. Et donc, c'est avec elle, cette maquilleuse qui s'appelle Anne Arnold, qui a fait toutes les sauvages suivantes.
Est-ce qu'il n'y a pas une idée pour vous d'exprimer justement un certain retour à la nature, même inconscient ?
En fait, l'idée qui est sans doute derrière, c'est plutôt que derrière notre petit vernis de civilisation, on est juste des animaux. Et qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que ça craque. Alors ça peut craquer de façon jolie, là, comme j'ai fait en photo, parce que c'est juste esthétique. Ça peut craquer de façon absolument ignoble, comme dans les guerres où les hommes retournent à une nature qui est vraiment cruelle, enfin atroce. Et c'est ça l'idée qui est sous-jacente, s'il y en a une dans cette série. C'est vraiment, on est juste très légèrement civilisé.
On voit qu'il y a énormément de femmes qui sont peintes, très peu d'hommes évidemment. Bon, vous venez de me dire que c'était très difficile de trouver des modèles hommes. Est-ce que ça aurait été différent justement s'il n'y avait eu que des hommes à la place ?
J'avoue que j'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien. Et j'avoue qu'en plus, peut-être que la maquilleuse aurait été plus heureuse avec plus d'hommes. Peut-être que moi moins. Joker. Alors, j'ai une explication pour les hommes. Il y a une histoire absolument vraie qui s'est passée, c'est l'histoire qui a fait ça. Lors des croisades, donc les croisés arrivent en Palestine, en terre promise, ils tuent tout le monde à peu près. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils commencent à s'installer, donc ils commencent à créer eux-mêmes une civilisation. Ils restent au Liban actuellement. Et les croisés, enfin les occidentaux, les mâles qui naissaient mouraient pratiquement tous. Il y avait une proportion de survie qui était de 20% pour les mâles et qui était de 80% pour les filles. Et ça, c'est vrai, et c'était juste des considérations de nourriture, de trucs comme ça, de soins, que nous, occidentaux, arrivant en Palestine, on ne connaissait pas, que les populations locales avaient totalement intégré. Et donc, c'était aussi ce clin d'œil que j'ai voulu refaire là, et c'est pour ça qu'il y a très peu de mâles. Et qu'on ne sait pas pourquoi, mais voilà. La réalité, c'est que donc, trouver des modèles filles, c'est vachement facile, trouver des modèles mâles, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que au côté esthétique, le côté esthétique féminin, on va dire, est vachement plus développé, est beaucoup plus développé dans notre société que le côté esthétique masculin, malgré tous les efforts de Jean-Paul Gaultier.
« C'est la maquilleuse qui a créé toutes ces œuvres, on va dire, sur corps. Et est-ce que vous avez travaillé à deux pour les thèmes, pour les formes, justement, la géométrie?
Alors, c'est très aléatoire. Ça a été un coup à deux, un coup elle, un coup moi. Moi, j'avais des idées de maquillage, donc je suis arrivé et je lui ai dit « je voudrais ça ». Donc, fais-le. D'autres fois, je lui ai dit voilà, moi, je voudrais que ce modèle devienne sauvage parce que je trouve que ce serait une bonne sauvage. Fais ce que tu veux. Et puis d'autres fois, elle commençait quelque chose et puis j'intervenais. Je fais non, là, ce serait bien que tu ailles dans ce sens-là, dans cet autre sens. Elle était venue avec plein de choses et puis moi, j'en avais aussi. Donc, c'est un mix. Mais on peut vraiment dire que ouais, elle a fait un travail énorme sur le maquillage.
Tout ce qui est enluminure et encadrement, on voit notamment comment vous avez travaillé ces dégradés un peu marron. Il y a un côté assez brûlé en fait. On a l'impression d'avoir des petits brûlis un peu sur les côtés.
Alors le concept au départ, c'était je suis un explorateur, je suis en 1902, donc je suis avec toute mon équipe sur mon bateau. J'ai pas des dizaines de kilomètres de pellicule. Donc j'avais dit ça aux sauvages, enfin aux gens qui sont venus se faire maquiller en sauvage. Je disais ok, tu viens, on fait 10 photos, pas plus. Et le début, pour avoir tout de suite le résultat, c'était, je les ai fait en Polaroid grand format, donc avec une chambre, c'est un appareil photo à soufflet qui existe depuis deux siècles à peu près. Et donc c'était 10 photos, et ce côté brûlé, en fait, c'est le tour du Polaroid grand format, c'est tout.
D'accord.
Que j'avais pour les premières, et ensuite que j'ai conservé, une fois que j'avais plus de Polaroid, que j'ai fait à la pellicule traditionnelle, ça s'appelle du plan film, que j'ai conservé quand même comme habillage pour la cohérence de la série. Je trouve ça très joli.
Et c'est le plaisir d'expérimenter justement avec un matériel qui ne correspond pas, parce qu'avec le numérique maintenant on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi l'idée
Le
numérique.
Le quoi?
Alors justement, vous avez des choses certainement à dire. Pourquoi avoir choisi le Polaroid?
Alors le Polaroid parce que c'est instantané, c'est vachement beau, parce qu'il y a un rendu qui est que je trouve merveilleux, parce que je suis un photographe qui retouche pas.
D'accord.
Du tout, aucune retouche, donc le numérique implique de la retouche. Et puis autre chose, quand on fait juste 10 photos, et ben ça devient des objets précieux. Quand on fait du numérique, on fait 100, 200, 500, 2000 photos dans la séance et puis on s'en fout, quoi. Enfin, ça va terminer sur un disque dur. Dans 3 ans, le disque dur sera mort, tout sera parti. Alors que là, mes Polaroids, si un jour ma maison brûle, je sauve bien évidemment mes enfants. S'il faut les sauver, mais maintenant ils sont grands, ils peuvent se sauver tout seuls. Mais le truc que je sauve, c'est ma caisse où il y a tous mes Polaroids, parce que c'est des objets précieux. Et c'est pour ça que c'est ça qui me plaît dans le Pola, et que le Pola ou même le négatif, et qui me plaît beaucoup moins dans la photographie numérique.
Vous êtes toujours dans Info30 en compagnie de Paul Van Borax, photographe amateur qui expose à l'Office culturel une série de photos intitulée Les Sauvages Blanches. Continuons d'explorer avec lui son univers artistique.
Si on n'a pas vu ce fameux petit texte introductif qui raconte une histoire, pour un non-connaisseur, on peut croire que c'est des photos d'époque justement de 1902, puisqu'elles sont toutes intitulées sous des dates de 1902.
Oui, il y a d'ailleurs, c'est voulu.
C'est voulu.
Non seulement c'est voulu, mais il y a même des gens qui s'y laissent prendre, et pas n'importe qui, puisque la première fois qu'elles ont été exposées, il y a des ethnologues, des vrais ethnologues qui étaient de l'université Paris 6 ou 7, je ne sais pas exactement, qui sont passés complètement par hasard, qui ont regardé et qui ont dit « on ne connaissait pas ça, c'est génial et tout, où est-ce que vous avez trouvé ces négatifs? C'était dans la malle du grand-père, c'était quoi ?» Alors je les ai fait marcher pendant une heure à peu près, et puis après on leur a dit la vérité. Mais donc même des ethnologues, des vrais d'université se sont laissés prendre. Mais de temps en temps, par exemple, là, l'exposition était à Arles en mai, et de temps en temps, je laisse les gens croire. C'est tellement, ils sont en train de voyager et tout, c'est comme une histoire qu'on leur raconte pour casser le mythe. C'est rigolo, c'est pas très méchant.
Non. Ensuite, il y a des noms aussi de tribus. Alors, est-ce que c'est des noms que vous avez inventés? Ce sont des tribus qui existent vraiment? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on ne peut pas vraiment deviner. Est-ce que ça vient de votre imagination ou pas?
Pas du tout, c'est les prénoms et les noms de famille. C'est des anagrammes des modèles.
Ça donne quelque chose de très intéressant également et de très exotique. Donc, on tombe encore plus dans le panneau.
Voilà.
Alors ensuite pour le choix de la certaine animalité qui règne, enfin le retour vraiment au sauvage, est-ce que vous vous êtes inspiré d'animaux par exemple, des fauves à certains moments, parce qu'il y a quand même pas mal d'objets, il y a des cornes un peu qui se baladent un peu sur certaines têtes, d'autres c'est plutôt des peaux, etc. Est-ce que vous êtes inspiré un peu du monde animal?
En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où on considérait que c'est des sauvages qui sont, alors en Afrique du, on va dire du sud-est, plutôt du sud, on se dit, bon, pour manger, ils vont tuer ou ils vont chasser ou cueillir. Bon, alors, s'ils chassent, après, ils peuvent se décorer avec les crânes, donc c'est des crânes d'antilope. C'est, je crois qu'on a une crâne de vache aussi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Afrique du Sud, j'en sais, peu importe. Donc c'est ça qui nous a guidés plus qu'autre chose. Mais on a tous, je pense, parce qu'on a tous lu des bouquins quand on était petit avec, et qu'on a vu des sauvages soit dessinés, soit en photographie, et que ça nous inspire inconsciemment. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas pris des photos pour dire « tiens, on va faire ça parce que ». On l'a fait complètement... à la sauvage.
D'accord, donc il n'y a aucun rapport avec la morphologie de la personne et éventuellement non. Une vision...
Alors, peut-être il y en a, mais comme ce n'est pas moi qui ai fait les maquillages, c'est la maquilleuse, et elle l'a fait complètement à l'instinct aussi, c'est-à-dire elle ne savait pas qui elle allait maquiller en arrivant, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire. Au pire, enfin au mieux, je lui disais, bah, aujourd'hui je voudrais que, par exemple, on est devant une sauvage qui a le visage tout noir, je voudrais qu'elle ait ce visage tout noir. C'était la seule contrainte, et derrière elle faisait ce qu'elle voulait.
Est-ce que vous parlez à vos modèles pour vous dire il faut vous tenir de telle façon, est-ce qu'il faut un certain temps avant de saisir justement la photo ou c'est en une prise tout de suite?
En fait, ça dépend. Il n'y a pas de loi. Il y, y a des gens qui traient... Parmi les premières, toujours celle-là devant laquelle on est, bon, on est à la radio donc c'est nul de dire ça. Donc ça dépend.
Ah, vous pouvez la décrire. Hein.
C'est une jeune personne avec le visage peint en noir. Et elle, tout de suite, s'est mise dans une sauvage. Et elle a pris des poses qui n'étaient pas trop caricaturales parce qu'il ne fallait pas trop tomber dedans. Mais tout de suite, elle m'a regardé. Je suis quand même un blanc qui arrive dans un village de sauvages, donc je suis l'étranger. J'arrive pour faire une photo. Eux, ils ne savent pas ce que c'est qu'une photo. Donc, ils veulent bien se mettre sur la toile parce que c'est une toile peinte ou à l'ancienne, etc. Mais ils me regardent un petit peu comme si j'étais un mutant. C'est moi le mutant. Et elle, il y en a qui saisissent tout de suite... les comédiennes notamment, et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être guidées, et qui étaient plus celles des modèles ou des amis qui étaient là, qui ne sont ni modèles ni rien du tout, c'est juste que j'avais invité. Ils disaient « Ok, mais maintenant qu'est-ce que je fais ? Tu vois, je ne sais pas trop quoi faire. » Et donc, soit je les guidais, soit elles faisaient n'importe quoi, et puis à un moment, je leur dis « Ah, non, bouge pas, c'est ça, t'es dedans. » Voilà, mais on n'avait que 10 photos à faire par personne, donc on n'avait pas trop le droit de se rater quand même.
Vous êtes un photographe amateur, quel est le regard des professionnels si vous en avez déjà eu? Comme vous avez réussi quand même à surprendre des ethnologues, pourquoi pas des professionnels de la photo?
Ah, alors ça en fait c'est le truc entre professionnel et amateur. Professionnel il gagne sa vie avec, amateur il la perd. C'est ça la différence. Après la qualité n'entre pas en ligne de compte. Pour moi il y a des amateurs qui font des trucs merveilleux et des professionnels qui font des trucs pourris. La vraie différence, je pense, c'est pas le regard du professionnel, c'est est-ce que ça plaît au public et est-ce qu'on réussira à l'emmener à gauche et à droite? Est-ce que, par exemple, on réussira à trouver des galeries à Berlin ou à Londres ou à Los Angeles ou à Tokyo pour exposer ces photos? Si on les trouve, ça veut dire que c'est super bon. Si on ne les trouve pas et si on se fait jeter de partout, ça veut dire que, ben voilà...
Et vous allez envisager justement d'aller la faire voyager, cette expo, un peu partout?
Ah ouais, à fond. Oui, absolument. Je veux la faire voyager. Pour l'instant, je n'ai pas eu trop le temps parce que j'ai une vie privée agitée, n'est-ce pas? Et puis parce que moi, ce que j'aime faire, c'est la photographie. Derrière, tout ce qui est faire les expositions pour des livres, pour les relations publiques, je suis super mauvais. Puis j'aime bien les gens, j'adore les gens. Mais aller les voir, leur serrer la louche pour leur dire « Ah, s'il vous plaît, exposez-moi, s'il vous plaît, faites ci, faites ça, c'est pas mon truc. » Si ça leur plaît, je suis capable, mais je vais pas aller les voir pour ça, je suis pas relation publique. Mais là, il y a normalement une jeune personne qui va s'occuper de moi. Et donc j'espère que cette personne, qui adore faire ça, va le faire. Moi, j'ai les contacts partout dans le monde, enfin partout, dans certains pays du monde, et donc il faut juste les exploiter. Donc j'espère bien, ouais, qu'elle va voyager, j'ai vraiment très envie, ce serait super bien, ce serait vraiment le plus beau cadeau que cette exposition puisse me faire.
Fin de ce sujet consacré à Paul Van Borax, photographe amateur, et son travail sur le thème primaire, les sauvages blanches. Si vous désirez en savoir un peu plus sur cet artiste, eh bien rendez-vous sur le www.pvonb.net.